This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de consoles, de PC et même de mobile. Et oui, on parle beaucoup d'industrie et de jeux. Aujourd'hui, on a un programme chargé. On va vous parler de Narita Boy, de Monster Hunter Rise. On va parler aussi de plein de petits jeux assez cool que je suis allé regarder. En tout cas, j'ai vu tous les trailers et je vais vous ressortir les plus intrigants. On a un programme vraiment sympa et en attendant de se lancer dans le programme lui-même, on va quand même dire bonjour. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir J.K. Loret qui est là tout le temps ou presque. Il fait partie des meubles.
Oui, c'est ça maintenant. Je suis un ancien.
T'es un pilier de bar du rendez-vous jeu. Et...
J'aimerais être un pilier de bar en ce moment, mais malheureusement, si je pouvais être un pilier de bar.
Un pilier de bar sur Zoom, c'est un peu moins attrayant quand même.
C'est moins drôle.
Et on a aussi Fanny Renard qui nous rejoint pour la deuxième fois de chez Goblins. Comment ça va, Fanny ?
Ça va super. Bon, à part l'annonce d'hier, mais voilà, je vais en profiter pour beaucoup jouer, beaucoup streamer, donc ça va.
Exactement. Et on aura aussi Jonathan Bushel, qui va nous rejoindre normalement, si tout va bien, en cours d'émission, et on pourra parler de Monster Hunter Rise avec lui, puisqu'il l'a testé pour Gameblog. Donc, on l'attend très gentiment et très patiemment, mais on a d'autres choses qu'on peut évoquer avant son arrivée, et notamment remercier les Patriotes qui permettent à l'émission d'exister en la soutenant financièrement. Je remercie spécifiquement Claude Girel, Yann B., Erwan Medec, Pierre G., Charlie Barbero et le producteur Johan Journet. Merci à vous tous de soutenir l'émission, c'est grâce à vous qu'on est là et je vous aime tous d'amour. C'est grâce à vous que je peux faire ce que je fais, donc je suis éternellement reconnaissant. Donc, je le disais, on a beaucoup de choses dont on va parler. Monster Hunter Rise tout à l'heure, plein de petits jeux et j'ai un petit truc que je vais faire. Ah mais attendez, qu'est-ce que je vois ? Est-ce que Jonathan est là avec nous déjà ?
Bonjour.
Mais bonjour Jonathan, comment vas-tu ? T'as réussi à te libérer un peu plus tôt ?
Ouais, bah tu sais, c'est le temps de tout remballer. Hein.
D'accord.
On prend nos précautions.
Très bien, mais bienvenue, merci d'être avec nous, c'est super cool qu'on t'ait. Du coup, on va chambouler le programme, on ne va peut-être pas parler de Narita Boy en premier, on va faire honneur quand même au jeu le plus attendu de cette semaine, on va faire honneur à Monster Hunter Rise et commencer avec lui. Qu'est-ce que t'en penses, Jonathan ?
Moi, donc j'y ai pas mal joué. Hein. On a eu la chance de pouvoir avoir une version test il y a un petit peu de temps hein, déjà maintenant. Et puis on avait eu toutes les previews, les démos, etc. avant. Et ben là où c'est vraiment très très surprenant, en fait, ça n'est pas vraiment une de surprise, c'est qu'on est sur une formule qui est très similaire à celle de Monster Hunter World. Monster Hunter World, je vous rappelle, qui était quand même un gros truc hein, chez Capcom. Hein.
Ouais, il faut. C'est vrai que certains, je pense que les auditeurs qui écoutent depuis un moment s'en souviennent, mais c'était quoi ? C'était 2018 World, je crois.
C'est à peu près 2018. Et si on refait un petit peu le topo de la saga, donc Monster Hunter, c'est quoi ? C'est un jeu où on va chasser du monstre. En gros, c'est un genre de boss rush dans lequel on tape des gros monstres et puis ensuite, une fois qu'on a terminé la mission, les gros monstres, qu'est-ce qu'on fait ? On se fabrique une arme et une armure avec leur reste fumant. Donc il y a pas mal de farm. Pas mal de farm à prévoir.
C'est barbare.
C'est très barbare. C'est pas du tout PETA-friendly. Hein. Alors là, c'est d'ailleurs quelque chose qui me choquait dans les précédents jeux. Moi, dès que je pouvais capturer un monstre, je le capturais, hein, je le tuais pas.
Ouais. Il y a certains qui ne peuvent pas jouer justement parce que ça les gêne un petit peu. Mais au-delà de ça, je peux comprendre aussi. Mais au-delà de ça, c'est vrai que World a amené vraiment une... On ne va pas refaire l'historique de toute la série non plus, mais c'est vrai que World a amené vraiment un gros changement dans la série parce qu'elle était hyper... Elle était essentiellement sur 3DS, si je ne m'abuse. Il y a peut-être eu des épisodes sur des consoles Sony, mais...
Des épisodes PSP.
C'est ça. Mais...
Les consoles portables, en général.
Ouais, et elle était assez inaccessible, elle était assez rugueuse, ardue. Et World l'a complètement ouverte, et ça a d'ailleurs beaucoup renfloué Capcom. Je ne sais pas si on peut dire renfloué, ils n'étaient peut-être pas en train de couler non plus, mais ça a clairement amené beaucoup d'argent dans les caisses, et ça a ouvert la série Monster Hunter World au reste du monde. Oui, pardon.
Tu peux carrément dire, en termes de chiffre de vente, hein, c'est un truc de fou, c'est-à-dire que c'est le jeu le plus vendu de Capcom, tout simplement, Monster Hunter World. C'est devant Resident Evil, devant Street Fighter, et je ne vous cite même pas de numéro pour ces jeux-là. C'est vraiment, c'est devenu le plus gros jeu vendu de chez Capcom, avec en plus une seule version, quoi, la version console et la version PC. Ouais. Non, ils ont vraiment tout déchiré. Et la force de cet épisode World, c'était de revoir toute la jouabilité, en fait. Donc, le principe de gameplay, ça reste le même. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on part chasser du monstre, on farm, on se fabrique ses armes et ses armures. Mais le tout a été rendu extrêmement plus ergonomique. C'est-à-dire, la formule, elle n'avait pas évolué d'un iota en 20 ans. On avait toujours les mêmes pirouettes de gameplay que sur PlayStation 2, par exemple. Non, ça ne pouvait plus le faire. Hein. et ben là, vraiment, ça a été vraiment... C'est l'ergonomie qui a été améliorée. On se retrouvait face à un jeu de 2018 en 2018.
Avec, c'est fou
non, mais c'est fou.
Et encore, je dirais qu'un jeu de 2018 en 2018, je suis peut-être un petit peu un esprit un peu taquin, mais je trouve quand même avec toutes ces améliorations, je l'avais trouvé un petit peu laborieux, je dirais. Mais je suis curieux, avant qu'on continue à en parler, toi, tu es un grand amateur de la série et tu as beaucoup aimé Rise.
Même pas
Rise.
Que de la série, du genre.
Ouais.
Du genre. C'est-à-dire que non seulement j'ai joué à Monster Hunter, mais j'ai aussi fait Tukiden, j'ai aussi fait, là il n'y en a plus qui me viennent en tête, enfin bon bref, tous les clones en fait, je les ai un peu tous fait aussi.
Et du coup, je veux demander aux deux autres, est-ce que moi, j'avais pas du tout accroché à Monster Hunter World, donc j'étais pas client de la série avant, et malheureusement ça m'a pas pris avec World, mais je suis curieux, J.K., Fanny, est-ce que vous avez accroché, vous êtes des chasseurs de monstres ou pas du tout
Alors moi, Monster Hunter, ça m'attire pas du tout. Là, je t'avoue que je vois les visuels sur ton live et j'avoue que ça me trigger. Mais en fait, c'est le genre de jeu où je pense que tu passes 500, 600, 700 heures dessus. Et moi, c'est les trucs auxquels je suis un peu allergique parce que j'ai pas envie de mettre ma vie entre parenthèses pour en jouer. Mais c'est marrant qu'on parle de genre qui ne respecte pas la PETA, tout ça, parce qu'en fait, c'était le sujet. Je sais pas si vous suivez trop l'émission Jour de Play sur Arte. C'était justement le sujet les animaux dans les jeux vidéo, reflet ou non de la réalité. Et donc, je me demandais, moi qui suis pas du tout une joueuse de Monster Hunter, c'est quoi au niveau narration ce qui justifie qu'on tape des monstres à l'appel?
Écoute.
Tiens, je vais répondre à ta question. avant, il n'y avait pas vraiment de justification. Avant, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, les monstres. Et du coup, c'est ça qui me gênait un peu. Là, ce qu'ils ont fait dans Monster Hunter Rise, ils scénarisent un peu la chose. En fait, on déplace le. Avant, Monster Hunter, c'était un truc médiéval fantastique, genre Seigneur des Anneaux. Là, avec Rise, on change de design, on passe sur du Japon féodal. Et on vient pomper l'histoire d'un des clones de Monster Hunter qui s'appelle Tiden. Et donc, dans Rise, qu'est-ce qui se passe? On vous explique que le village dans lequel vous vous trouvez, le petit village japonais, il est attaqué par les monstres. Et du coup, il faut aller se défendre. Donc là, disons que la justification de tous ces combats se fait un peu plus. Pourquoi est-ce qu'on les attaque? Parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils font du mal aux villageois. Voilà.
C'est le Japon qui se met à l'heure de ce qui peut se faire et de ce qui ne peut pas se faire. C'est vrai que ça a dérangé certains. J.K., toi, t'es un... Pardon, Fanny?
Ils ont tapé en premier, donc on ne fait
ouais,
que se
c'est
défendre.
Ça, exactement. On
ok,
se défend.
C'est bon.
J.K., t'es tombé dans le Monster Hunting?
Monster Hunter, ça fait partie, c'est série un peu comme... Alors, ça n'a rien à voir, mais un peu comme Animal Crossing, pour le coup, c'est beaucoup plus pétafrénie, Animal Crossing, j'ai l'impression.
Les animaux dans le monde de la finance, il y a du commerce, tout ça. C'est pas forcément mieux, mais...
Je sais pas si c'est... c'est la partie de ces séries vraiment sur lesquelles j'ai envie d'aller, mais j'accroche pas. Moi, je t'avoue que le Rise, là, je l'ai sur Switch. J'ai commencé à y jouer et je trouve ça cool. Mais je sais pas, il y a un truc qui c'est pas encore assez friendly pour moi en termes d'interface, ouais. En termes de progression, etc. Même s'il y a d'énormes efforts. Donc, je pense que je vais continuer. Alors, c'est pour ça que j'en parle pas trop, parce que j'ai vraiment joué, quoi. J'ai joué une heure et demie, donc je peux vraiment pas donner mon avis sur le jeu. Mais je vais quand même continuer, parce que je t'avoue que pour le coup, ce qui m'intéresse plus sur cette version-là, c'est le côté portable, en fait. Moi, World, là, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, tu peux, enfin, Jonathan, tu vas confirmer, mais c'est que tu sors ta console, tu te fais une partie rapide et tu peux jouer littéralement partout. Donc, et Monster Hunter, c'est une série qui est née, enfin, qui a connu le succès grâce à sa version portable. Avant tout, quoi.
Grâce à ces versions portables et notamment au mode ad hoc. Enfin, je sais plus si ça s'appelle comme ça sur Switch.
Le mode local, quoi.
Le multi-local, attention, hein, vous gardez bien vos masques.
Oui, évidemment. Mais alors, justement, bon, parlons du jeu lui-même, donc Monster Hunter Rise. Arrêtons de parler aux gens qui ne sont pas forcément fans de la série et parlons à quelqu'un qui la connaît. Du coup, je te redonne la parole, Jonathan. Rise, c'est dans la lignée de World et tu l'as beaucoup, beaucoup aimé. Tu lui as mis 9 sur 10 dans ton test sur Game
9 World. Avec un indispensable.
Ouais. Donc, c'est quand même une grosse réussite pour toi qui connais le genre et la série. Dis-nous en plus donc sur Rise, qu'est-ce qui fait ses qualités, et peut-être par rapport à World, mais aussi pour un jeu.
Alors, et puis même par rapport au Cross Generation qui était sorti sur Switch il y a quelques années, qui était encore un épisode de Monster Hunter World, entre guillemets, à l'ancienne, avec aucune amélioration ergonomique. Donc là, avec celui-là, avec Rise, le challenge, c'était de passer après Monster Hunter World, qui a eu toutes les améliorations dont nous avons parlé tout à l'heure. Le challenge, il est réussi, en fait. Hein, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris toute la formule de gameplay qui existait dans Monster Hunter World et ils l'ont adapté à Rise. Alors, forcément, le jeu tourne sur Switch. On n'est pas sur Play 4, ni sur Play 5, ni sur Xbox, ni sur PC. Donc, il est un tout petit peu moins beau. Ça va être un petit peu le petit point noir de l'adaptation de cette formule World sur Switch. Forcément, au niveau des graphismes, ça alias de tous les côtés. Le framerate des monstres au loin, il est à 2 FPS. Les textures, elles ne sont pas extraordinaires. La résolution, n'en parlons pas. Mais bon, c'est pas grave. Pour qui sait faire fi un peu de la technique d'un jeu, je pense que la plupart des joueurs Switch savent faire fi de cela. On est sur un produit qui est vraiment très 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 propre. Je pense même en des termes techniques que c'est peut-être un des plus beaux jeux de la Switch que j'ai vu tourner. Voilà, tout simplement.
J'avoue que les graphismes sont surprenants pour les capacités de la Switch. Ouais.
Exactement, parce qu'en plus on est sur une grande map ouverte avec pas mal de monstres, etc. Très peu de temps de chargement. Les temps de chargement sont extrêmement courts. Ils font 15-20 secondes. Ouais. C'est très agréable.
C'est vrai que ça c'est dingue. Ouais.
Vas-y, JK. Ouais.
Donc vraiment...
Non, je dis juste que j'abondais dans ton sens, dans le sens où... Moi, j'ai joué qu'en mode portable pour le moment. Je ne sais pas ce que ça donne sur une télé, mais je suis assez bluffé par la qualité visuelle du jeu qui est pour de la Switch, qui est assez dingue.
En télé, les défauts sont forcément plus visibles et tu vois les petites chutes de framerate que tu vois pas forcément en mode portable. Voilà. Mais les deux sont très jouables. Hein. Ouais. Aucun problème. Donc voilà, donc techniquement, c'est pas ouf, mais au niveau gameplay, on reprend la formule World. Donc c'est génial, parce qu'on a le même jeu qu'on avait adoré sur sa Play 4 ou sa Xbox One il y a 2 ans. Alors, et là où c'est même encore plus fou, c'est que la formule, elle est même améliorée par rapport à World. J'explicite. Par exemple, comme je vous avais parlé des améliorations d'ergonomie. L'amélioration d'ergonomie de World, c'est quoi? C'est que tu n'as plus besoin de sortir ta pioche pour piocher le gisement de minerai qui se trouve sur la carte. Ça se fait tout seul. Là, dans Rise, tu n'as toujours plus besoin de sortir ta pioche. Et là où il fallait piocher 3 fois dans World, tu n'as plus besoin de piocher qu'une seule fois. Génial, extraordinaire.
C'est le genre de détail qui peut sembler anecdotique à certains, mais ça change ton agrément de jeu. Quoi. C'est exactement ça.
Exactement ça. Tu joues à autre chose. C'est beaucoup plus agréable à jouer. Je vous donne un autre truc qui va encore plus loin dans l'ergonomie, l'ajout de fonctionnalité, de confort. C'est on a une monture dans ce Monster Hunter World. Alors, jusqu'à présent, dans Monster Hunter, on avait toujours un petit chat qui nous accompagnait, qui était notre compagnon. Donc, les amis des chats, ils étaient contents, mais les amis des chiens, eux, ils n'avaient rien. Là, maintenant, ils ont nos amis des canidés. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une petite monture, un chien sur lequel ils vont pouvoir monter et pouvoir se déplacer plus rapidement sur les cartes. Sachez qu'à d'autres chiens, vous pouvez tout faire. Vous pouvez aiguiser votre arme, par exemple. Aiguiser l'arme, c'était un des pires trucs dans Monster Hunter. Parce qu'on est obligé de se poser dans un coin de la carte, on ne peut plus bouger, on est obligé d'attendre les 10 secondes de la fin de l'aiguisement. Là, on peut le faire à d'autres chiens. Donc, c'est super, on gagne du temps. Voilà, on fait ça en temps masqué. Donc, vraiment, cette ergonomie-là, elle a été améliorée. Donc, on va encore plus loin dans les ajouts ergonomiques. Et en plus de ça, on ajoute des ajouts de gameplay aussi, purs et durs. C'est-à-dire que, par exemple, chaque arme se voit dotée d'un coup supplémentaire. Qui va changer la façon de jouer, tout simplement. Moi, je vous parle des deux petites épées, par exemple, parce que ce sont mes armes. Quand on appuie sur rond, alors je suis désolé, je vous parle en bouton PlayStation. Donc, quand vous appuyez sur rond, le bonhomme fait, il tournoie autour du monstre, il fait une attaque tournoyante. Et bien, si vous mettez la nouvelle attaque des petites épées, le bonhomme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir en l'air, et ensuite, il va faire une vrille en descendant. Donc, bah, ça change complètement la façon dont on peut jouer son personnage. Parce qu'avant, les petites épées, c'était quoi? On allait taper dans les pieds du monstre. S'il fallait couper la corne du monstre, c'est pas le joueur qui avait les deux épées qui allait s'en occuper, c'était un autre. Bah là, le joueur qui a les deux épées, il va pouvoir accéder à toutes les parties du monstre et bien localiser ses dégâts.
Ouais, c'est vraiment un jeu où les armes changent énormément. Pour ceux qui connaissent pas la série, on a une quinzaine, vingtaine d'armes aujourd'hui et chacune a des coups et une manière de jouer différente. C'est presque une classe différente quand on change d'arme. Et du coup, le fait de rajouter un coup, ça change la manière d'approcher les combats quand on est équipé de cette arme-là. Donc, c'est vraiment un élément important. Il y a aussi une sorte de grappin qui va nous permettre de nous déplacer dans les airs.
Tout à fait.
Un grappin qui s'accroche sur rien.
C'est magique.
Ah non, non. Il est génial, le grappin. Le grappin est génial.
Mais peut-être, est-ce que les gens qui ne sont pas fans de la série Monster Hunter, est-ce que tu crois que ces éléments d'ergonomie qui simplifient l'approche du truc sont suffisants pour les intéresser à ce titre-là? Ou est-ce que ça reste quand même, c'est un Monster Hunter, la formule est respectée. Et donc, si on n'a pas aimé Monster Hunter par le passé, moi, je te donne mon exemple. J'ai essayé, au-delà de World, j'ai essayé les démos de tous les jeux, en fait, de tous les Monster Hunter qui étaient disponibles, y compris celle de Rise, mais j'ai jamais réussi à accrocher. Est-ce que tu crois que Rise est suffisamment différent des autres pour plaire à ceux qui n'aimaient pas les démos et les jeux précédents? Ou est-ce que ça reste quand même la même formule?
Il faut de base aimer le farm. Il faut aimer les RPG, il faut aimer le farm. Si t'aimes pas ça, t'es pas au bon endroit. Ça,
tu
c'est
sais
clair.
Quoi Il y a une question de farm, effectivement, qui est importante parce que c'est ce qui fait l'attrait du jeu sur le long terme. Mais au-delà de ça, le gameplay d'un moment à l'autre, le moment-to-moment gameplay, est quand même très spécifique. On a souvent des animations qui sont très longues. C'est presque Dark Soulsien dans le fait qu'il faut quand on va taper, quand on va apprendre les mécaniques du monstre.
Du boss.
Ouais. C'est que des. Je crois que tu disais dans. Enfin, c'est presque du boss rush.
C'est presque du boss rush, ce truc, hein, ce jeu. C'est-à-dire que les monstres, en effet, ils sont super costauds et tu dois apprendre leur pattern. Et en effet, ton arme, moi, je vous dis, je joue avec la petite épée qui est une arme assez rapide. Mais imaginez, je joue avec le marteau. Je vous parle même pas de l'inertie du truc. Quand tu lances ton coup, en effet, il a fini 5 secondes après. Donc, il faut bien calculer le moment où tu vas le mettre. Ouais. En effet, en termes de jouabilité action, c'est dur, hein, c'est difficile. C'est pas. Faut faire attention, faut pas y aller n'importe comment.
Après, ce que j'ai beaucoup lu et entendu, c'est que malgré tout, il est considéré par les connaisseurs comme l'un des épisodes les plus faciles.
Il est facile. J'ai très peu échoué de mission, moi, jusqu'à présent. Je roule un peu sur le jeu. En plus, je fais bien mon farm, je prépare bien mes armes. En plus, le farm, il a été un peu réduit, on vous demande moins d'éléments. Donc, les armes, vous les avez plus rapidement. Donc, ma progression, elle a été extrêmement rapide. J'ai perdu très peu de missions. Les monstres, ils n'ont pas fait un pli. En effet, du coup, il est un peu plus facile que les autres.
C'est peut-être que tu connais très bien le genre, comme tu le disais. Peut-être que c'est moins frustrant pour un joueur débutant qui va se dire « je ne vais pas mourir à chaque fois que j'essaye de faire une mission ». J'ai pas eu de réponse à ma question. Est-ce que les gens qui n'aiment pas...
Vas-y.
Et qui n'aiment pas qui n'ont pas accroché, qui voudraient explorer le genre, est-ce que j'ai l'impression que tu es en train de dire, c'est le bon titre pour le découvrir finalement, ce genre?
Ah oui, si tu veux faire du Monster Hunter-like, soit tu joues à World, soit tu joues à Rise. C'est les deux meilleurs. Ouais. Ça, c'est sûr et certain.
Et entre les deux, est-ce que Rise est encore plus accessible? C'est ça que j'ai eu.
Rise est plus accessible.
D'accord.
Donc il est plus accessible en termes de gameplay, on l'a dit, que ce soit le gameplay RPG, où on te demande moins d'éléments pour farmer, ou le gameplay action qui est un peu plus facile. Mmh. Il est même un peu plus accessible dans ses menus aussi, parce que dans Monster Hunter, on passe énormément de temps dans les menus à prévoir ses armes, machin et tout, etc. Les joueurs confirmés pourront même vous parler de leurs petites histoires de carnet dans lesquelles ils notent leur progression de loot. Enfin voilà, ça, bon, ce sera plus trop le cas dans Rise. Vraiment, Rise est un peu plus fluide, il avance un peu plus facilement.
D'accord. Ok.
Et il n'y a pas de.
Alors attends, j'ai toujours pas répondu à ta question en fait.
On viendra à la question de Fanny après. Vas-y, Jonathan. Ouais.
Est-ce qu'un joueur qui n'aime pas Rise, qui n'aime pas Monster Hunter, va se plaire avec Rise, il aura plus de chances que ça lui plaise. Maintenant, si tu es allergique au concept de base, ça va être compliqué.
Ouais, bien sûr. Ouais. Fanny, tu avais une question aussi ?
Ouais, en fait, à force de regarder les images, ça me rappelle des vieux souvenirs de MMO, World of Warcraft et tout, avec les montures, customisation de personnages, les tabassages de gros monstres et tout, et farm. Et je me dis, en fait, ce genre de jeu, ça me donne envie d'y jouer si je peux être avec des potes. Mais sauf que là, on est d'accord, c'est full solo.
C'est par 4. C'est par 4. C'est des instances de 4. 4 joueurs max. Donc, bien sûr, tu peux inviter tes potes en chat et passer toute la night avec eux à chasser du monstre. Et tu peux aussi le faire en solo. Moi, par exemple, ce genre de jeu, j'aime beaucoup y jouer en solo.
Est-ce que le.
Notamment le Rangie, si je suis sur ma Switch, dans le métro, un truc, bah, je suis tout seul, quoi.
Ouais. Voilà. Est-ce que le multi, du coup, sur Switch, c'est vrai que c'est parfois un petit peu son point faible, le point faible de Nintendo. Là, c'est assez simple. T'as ta liste de potes, tu peux les inviter pour une expédition.
Ah, ça se fait à la volée. Et même avec les inconnus, ça se fait à la volée aussi. C'est très simple.
D'accord.
De rejoindre une équipe de 3 joueurs déjà formés. Ouais. C'est-à-dire que tu peux enchaîner les missions avec plein de joueurs différents, en fait. Voilà.
Mais du coup, comment ça se passe si quelqu'un a beaucoup joué et son pote démarre le jeu? C'est pas gênant?
Celui qui a beaucoup joué va guider celui qui démarre. Parce que certaines missions seront bloquées pour le joueur débutant. Sinon, ce serait trop facile. Tu démarres ta partie, je t'emmène au niveau 30 et t'as direct le loot, le stuff de niveau 30. Non, ça marche pas, ça.
Bon, du coup.
Ah ouais, d'accord, intéressant.
C'est sans doute effectivement le meilleur jeu pour se lancer. Tu lui as donné 9 avec label indispensable. Qu'est-ce qui fait, et ça va être ma dernière question, qu'est-ce qui fait qu'il est tellement... j'ai presque l'impression qu'il est meilleur, peut-être que j'interprète un peu, mais c'est le meilleur des Monster Hunter. Qu'est-ce qui fait qu'il est meilleur que les autres ?
Alors, tiens, j'ai pas fini sur le gameplay tout à l'heure. Je vous ai parlé du grappin. Vous en avez parlé vite fait. Ce grappin-là, tu sais, quand je disais que déjà les coups supplémentaires agrémentaient le gameplay, le grappin, il agrémente le gameplay lui aussi.
On peut l'utiliser dans les combats eux-mêmes aussi.
Dans les combats, c'est génial parce que du coup, tu vas lancer ton grappin sur la tête du monstre et tu vas te retrouver en face de sa tête si tu veux lui casser les dents, par exemple. Et il y a un autre truc qui est génial avec ce grappin, ça ajoute une autre dimension au combat, une nouvelle dimension, il te permet de fuir quand tu t'es fait taper. Et du coup, ça rend le jeu le plus facile en fait, en vrai, parce que du coup, tu te prends pas la seconde attaque. En gros, le réflexe, c'est quand t'es au sol, tu t'échappes au grappin.
Donc, ça ajoute de la mobilité hors combat.
Ouais, ça ajoute de la grande en combat aussi. Voilà. Donc, les combats, vraiment, ils ont ouvert les combats avec Rise. Pourquoi est-ce que c'est le meilleur ? Déjà, cette jouabilité-là. Je pense que c'est la meilleure jouabilité dans un Monster Hunter-like qu'on puisse trouver aujourd'hui. Il y a même un truc dont je n'ai pas parlé, je le citerai. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est le meilleur ? Peut-être qu'il est un peu plus facile que les autres et que du coup, il est un peu plus accessible. Peut-être que ça ramènera plus de monde. Voilà. Alors ça, les joueurs hardcore, ils vous diront qu'ils ne sont pas contents. Mais bon, tant pis pour eux, on ne les écoute pas. Donc, j'ai parlé du gameplay, j'ai parlé de la durée de vie. Alors, la durée de vie, pour l'instant, le jeu, il est un peu light. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore le contenu post-game. Mais il va arriver. Il va arriver et à terme, d'ici quelques mois, on aura... Fanny le disait tout à l'heure, de quoi passer 5 ou 600 heures sur le jeu. Même si moi, je vous avoue, je ne passe pas autant de temps que ça sur ces jeux-là. Moi, je m'arrête à une centaine d'heures à peu près.
C'est rien du tout. C'est un détail.
C'est pas que je pense de ne pas aller au bout, je ne vais pas faire le 100%, je ne sais pas.
Non, le 100%, c'est pas pour moi. Moi, j'ai même deux métiers, tu sais quoi. Donc... voire même un troisième si tu as envie. Donc, non, le 100%, c'est pas possible. C'est impossible.
Okay.
Et voilà. Et donc, le dernier truc dont j'ai pas parlé sur ce jeu, et qui est, je pense, une des choses vraiment géniales qu'ils ont mis en place dans ce Monster Hunter, si j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, je vous avais dit qu'avant Monster Hunter, c'était du heroic fantasy classique, basique. Là, c'est devenu de l'heroic fantasy, mais dans le Japon féodal. Et du coup, qu'est-ce qu'on y gagne ? On y gagne un design qui a changé. Les décors, on retrouve des Tsunoya, des temples, des trucs, c'est vraiment super beau. On retrouve les décors de Kusai, en fait, au fond. Voilà, tout simplement. Les musiques, elles sont géniales. Il y a des musiques avec des musiques traditionnelles, avec des airs chantés, qui sont du plus bel effet. Ça, c'est vraiment stylé. Ça m'a fait penser un peu à Nier Automata, hein, au niveau de la musique. Voilà, au niveau de la bande-son. Tout est plus beau. Les armures sont japonisantes. Les monstres, les nouveaux monstres sont japonisants. Et du coup, cet aspect très Japon féodal, ça va attirer une nouvelle frange de joueurs vers la licence. Parce que c'est un univers qui est quand même assez féerique, assez beau, et qui, en termes de design, fait rarement de fausses notes.
D'accord.
Je me ferais y jouer, quoi. L'univers Japon médiéval, tout ça, avec les anciennes architectures, les décors et tout. Même les monstres, en fait, je suis assez sensible à tout ce qui est design de créatures. Genre, limite, j'aimerais plus acheter l'artbook, en fait. Découvrir les
graphiques
et tout. Il y a un énorme
artbook. Oh, ça arrivera probablement, un moment, je suis sûr, oui. C'est marrant. Écoute, Jonathan, je pense pas tout à coup me transformer en fan de la série, mais tu m'as au moins donné envie de relancer la démo parce que j'avais pas pensé à utiliser le grappin pour dynamiser le combat lui-même. Moi, j'ai toujours eu un problème avec les combats un petit peu lourds.
Essaye des armes différentes. Ouais.
J'avais joué une vingtaine d'heures à World quand même, j'avais essayé plusieurs armes.
C'est quand même pas mal. Hein.
Ouais, j'avais un peu joué.
T'as le temps de voir un petit peu. Ouais. Hein.
Bon, on verra, je retenterai la démo. Merci en tout cas pour cette.
De rien, c'était un plaisir.
Petit résumé. Écoute, je sais que tu es très occupé, si tu veux filer, tu peux. Si tu veux rester avec nous, tu peux aussi.
Ouais, non, je vais filer, je suis désolé.
Pas de soucis.
Je vais en profiter, je vais avoir le temps de manger du coup.
Parfait, c'est génial. Est-ce que tu peux nous dire avant de partir où on peut te retrouver, peut-être sur Twitter?
Alors, Gameblog, bien sûr. J'ai un Twitter, Johnny Wan, JONIWN.
Super.
Gameblog, bien évidemment. Alors, comment est-ce que vous me retrouvez sur Gameblog? Vous allez dans les tests, vous en trouvez un que j'ai fait et vous cliquez sur une base. Voilà.
Bon, on mettra le lien vers ton Twitter dans les notes de l'émission. Comme ça, ça sera
bien, super.
Super. Super, super. Merci beaucoup, Jonathan.
C'était un vrai plaisir d'être avec vous et de vous parler.
Partagez. Ciao, bon appétit.
Allez, à bientôt.
Salut.
Bon, écoutez.
J'aime bien sa photo de couverture, il est avec un super Sentai. C'est magnifique. Allez le follow sur Twitter. Vous ne serez pas déçus.
Donc, écoutez, ça m'a un petit peu donné envie de relancer la démo. Donc, mission accomplie, je pense. Super. Écoutez, on va faire une toute petite pause pour que je vous parle de quoi ? Que je vous parle de Patreon. Et oui, Patreon, vous le savez, c'est le moyen de soutenir l'émission puisqu'elle est financée en grande, grande majorité par le soutien de ses auditeurs. C'est vous qui écoutez maintenant. Certains d'entre vous aiment bien l'émission. J'espère que tous ceux qui écoutent aiment l'émission parce qu'il ne faut pas se l'imposer non plus. Mais si vous l'appréciez, peut-être que vous direz que tout travail mérite rétribution et que, en l'occurrence, ça vous fait passer un bon moment, ça vous informe, ça vous distrait et que donc, ça vaudrait bien aller un petit euro, deux petits euros par épisode, quelque chose comme ça. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux et contribuer au fait que cette émission puisse exister, contribuer au fait que ça soit mon métier, mon travail, grâce à vous, grâce à ceux qui écoutent. Donc patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission, en plus du fait que vous avez cette satisfaction qui devient une partie de vous d'être satisfait de soutenir les créateurs, vous avez aussi des petits bonus comme l'absence de pub, même cette petite partie promo au milieu, vous ne l'avez pas dans l'émission, sur le flux privé qui vous devient accessible. Vous avez aussi des contenus bonus, vous avez des time codes pour passer d'un moment à l'autre de l'émission s'il y a une partie qui ne vous intéresse pas, etc. etc. Donc, plein de petits bonus. Il y en a d'autres en plus, comme l'after show qui est disponible pour les auditeurs qui sont patriotes sur le flux privé. C'est un petit moment communautaire de discussion tranquille qu'on fait après l'émission classique, qu'on enregistrera d'ailleurs tout à l'heure. Et si vous appréciez l'émission, le lien vers patreon.com/rdvjeux est dans les notes et vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, ça prend 2 minutes et c'est hyper grandement apprécié. Merci à tous ceux qui le font déjà et à ceux qui y pensent. patreon.com/rdvjeux.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour la suite, j'ai une série de jeux et de trailers qui est absolument immense. Et qui, en fait, il y a eu, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Futur Game Show, le ID at Xbox Spring Showcase, où on a eu des tonnes de jeux présentés. Et d'autres jeux en plus en dehors de ces deux événements. Et donc, j'ai passé en revue, je ne sais pas, peut-être 30 trailers différents et j'en ai noté certains qui me semblaient intéressants. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais l'un d'entre eux, j'ai découvert 10 minutes avant de lancer l'émission, alors que Fanny était déjà programmée depuis un moment, que l'un d'entre eux était édité par Goblins. Donc, on va en parler dans une seconde. Avant ça, je voudrais dire tout de même que, en dehors de la question des jeux, nouveaux jeux annoncés, ou des jeux dont on a eu des dates de sortie, Microsoft a montré une série de jeux qui seraient inclus dans le Game Pass. Alors, ils en montrent dans leur showcase certains qui étaient déjà inclus, mais il y en a des nouveaux et ça continue à faire une collection assez incroyable. Même Astria Ascending qui vient d'être présenté. Enfin, il y en a plein. Le Game Pass continue à être un excellent deal et au niveau des indés également. Moi, ce que j'ai noté, c'est Astria Ascending, dont on parlera peut-être. Pour être parfaitement honnête, c'est pas forcément mon truc, ce jeu. C'est vraiment pour les super grands fans de japanitude, on va dire. Nobody Saved the World, du studio de Guacamelee. Il y a Moonglow Bay, qui est un jeu de pêche assez zen en voxel, qui a l'air intéressant. Enfin, il y en a plein. Il y a Undungeon, il y a Sable, le truc avec des graphismes à la Mobius, dont on entend parler depuis bien longtemps. Narita Boy, dont on va parler dans un instant.
J'ai vu passer, je suis méga hypée. Bah, déjà, la vibe Moebius, trop fan. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté de journée aussi. J'ai vu des images où il glisse un peu sur le sable.
Ouais.
Ah pardon, ça a été présent.
Écoutez, le premier d'entre eux, je pense, c'est un jeu dont je voulais parler tout à l'heure et que j'ai même oublié, c'est Narita Boy. Alors, on pourrait parler aussi de It Takes Two et de Balan Wonderworld. It Takes Two a des super bonnes reviews et Balan Wonderworld a des super mauvaises reviews, mais je crois qu'aucun d'entre nous n'y a joué ici. Par contre, Narita Boy, c'est vraiment le truc de JK et on va commencer par celui-là. C'est pas un trailer, mais c'est bien un jeu qui est disponible et qui est dans le Game Pass. J'avais testé la démo à l'époque du festival de jeux Steam, et pour moi, c'était un peu trop années 80, mais toi, ça a l'air de te plaire beaucoup,
ça y est,
JK.
Ça y est. On va commencer à critiquer les années 80, ça y est. Alors, non mais tu sais quoi, je comprends entièrement la réticence qu'on peut avoir parce que c'est vrai qu'au premier abord, c'est vraiment les années 80 qui te hurlent à la tronche, le côté la synthwave, les néons, les gros pixels. T'as même une espèce de filtre un peu VHS cathodique sur quand tu joues. Bon, voilà. Tout, voilà. Et je peux comprendre que ça, on en a mangé énormément ces dernières années. C'est un style graphique et visuel, c'est une mode qui s'éteint pas. Alors moi je suis toujours quand même globalement client, mais cela dit, je suis client quand ça sert quand même un propos, quand ça sert le jeu. Et Narita Boy, je trouve, le fait très bien parce qu'en plus, de cette esthétique de base qui fait un peu, qui fait même pas qu'un peu, très années 80, mais même le scénario, c'est une espèce de variation de Tron avec un côté très, très religieux, vraiment, enfin, c'est assez étrange au niveau du scénario. Donc, on comprend pas tout d'ailleurs. Par contre, c'est quand même au service d'une direction artistique qui vraiment est assez incroyable. C'est-à-dire que, encore une fois, au-delà du trip visuel années 80, t'as vraiment des designs de personnages, de créatures, des décors de fond, qui sont des sortes de mélanges entre des décors qui pourraient être presque être de l'heroic fantasy, mais toujours avec un côté numérique, pixel, qui te ramène en fait à quelque chose de très marqué. Et tu vois, en fait, c'est pas juste un habillage années 80 pour faire cool. C'est vraiment c'est vraiment le fond du jeu qui est vraiment, c'est dans une sorte d'état d'esprit, l'informatique des années 80, en fait. Enfin, tel qu'on l'imaginait dans les années 80. C'est pour ça que je parle de Tron. C'est vraiment, voilà, comment est-ce qu'on imaginait le futur dans les années 80? Et ça reprend ça, mais vraiment, ça le fait très, très, très bien. Et c'est au service d'un jeu qui est plutôt classique dans le fond. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu d'action-aventure un petit peu à la flashback, ce genre de truc un peu ancien, mais avec quand même de l'exploration, et des combats très très cool qui en plus, en fait, au fil des heures, tu gagnes de plus en plus de capacités, et c'est un feeling en termes de dynamisme qui va un peu rappeler ce qu'on a sur des jeux comme Dead Cells, par exemple, en moins speed, hein, parce que Dead Cells, ça va à 200 à l'heure.
Il sort sur une disquette, merveilleux.
c'est ça. C'est un peu cette
histoire. On va regarder les images.
Ouais, bah c'est fort possible. Alors moi, j'en suis avec peut-être 3 heures de jeu, je sais pas. Et tu combats à la fois à l'épée, mais ton épée peut te servir de shotgun. T'as plein de pouvoirs qui arrivent au fur et à mesure, et ça donne vraiment des combats ultra dynamiques avec surtout des animations, un système d'animation en fait qui est hyper intéressant. Déjà, c'est sublime, et en plus ça te permet de bien anticiper les attaques des ennemis, les patterns, etc. Donc c'est vraiment très très plaisant. Donc voilà, c'est chouette.
Il y a un truc, en fait, tu dis j'ai joué 3 heures, les combats sont cool. Moi, j'avais fait la démo, et je crois qu'au bout d'une heure de démo, où c'était de l'exposition, tu marches d'un endroit à l'autre avec cette esthétique, qui, j'ai l'impression qu'ils aiment quand même beaucoup, beaucoup se regarder dans le miroir. Dans ce jeu, j'ai l'impression que les développeurs sont très très amoureux de ce qu'ils ont fait, et du coup ça, le rythme en pâtit, ouais. Je trouve. Et au bout d'une heure à explorer la salle du grand frère, il y a tout le lore qui est exposé pendant très très longtemps, j'en ai eu marre, et je crois que j'ai eu genre 5 minutes de combat, et c'était très lent, quoi. Est-ce que c'est vraiment, ça vaut le coup de persister?
Pour le coup, la démo, je ne sais pas exactement ce qu'elle contenait, mais là, quand même, rapidement, dans le jeu, tu as des combats, tu as un équilibre entre les combats, l'exploration et la narration qui est, on ne va pas se mentir, assez particulière. C'est-à-dire que quand tu croises un personnage, il va commencer à te sortir des termes techno-religieux très obscurs. En fait, tu sens qu'ils ont créé un lore dont ils sont assez fiers, mais ils te le balancent un peu comme ça. C'est vrai que ça peut être un défaut. Par contre, l'équilibre entre combat, action, plateforme, exploration, il est vraiment agréable, parce qu'en plus tu vois t'as des boss assez régulièrement, la difficulté est bien dosée. Par contre, le vrai défaut que j'ai sur le jeu, c'est que je pense que c'est un jeu qu'il faut faire d'une traite, ou alors faut éviter de le lâcher pendant plusieurs jours, parce qu'en fait t'as un objectif, mais t'as aucune carte, t'as aucune indication sur le chemin où aller, et tu peux rapidement te perdre et devoir te dire bon là attends, par rapport à ce qu'il me dit, où est-ce que je dois aller, donc tu fais des allers-retours. Ça c'est un peu dommage. Je trouve vraiment qu'une carte, enfin même si c'est pas un jeu type Metroidvania, mais une carte du monde, ça a vraiment aidé, parce qu'il y a quand même plusieurs moments où tu te souviens plus où se trouve tel endroit, parce qu'il y a quand même beaucoup d'allers-retours, tu vois, des clés à débloquer, des cartes, etc. Donc c'est un peu dommage.
J'étais perdu dans la première demi-heure, donc ok, bon écoute, c'est un jeu qui, je pense, ne laisse pas indifférent, et beaucoup de gens l'aimeront beaucoup. Moi, ça m'a un peu, ouais, je trouve vraiment qu'ils sont amoureux de leur truc, quoi, ce qui est bien, mais
Ouais, en termes de DA, en termes de direction artistique, je pense que c'est quand même un jeu qui peut être assez clivant. C'est-à-dire qu'effectivement, soit t'adhères à fond. Mais par contre, j'insiste sur le fait que c'est pas juste un habillage années 80 synthwave pour faire cool. D'ailleurs, la bande-son, tu vois, évite l'écueil de la bande-son à la Carpenter Brut, ou à la, comment on appelle ça, à la Kavinsky, tu vois. C'est plus un truc très, très John Carpenter. J'adore Carpenter Brut. Je porte littéralement un t-shirt Carpenter Brut pendant que je fais cette émission. Mais par contre, c'est vraiment entendu et réentendu. Ouais. Par contre, C'est plus une bande-son avec des longues plages de musique assez calme, très atmosphérique. On a l'impression d'être dans un film de John Carpenter, tu vois, en termes de bande-son.
D'accord.
Et je trouve que ça sert énormément l'ambiance du jeu.
Bon. Moi, j'ai enfin retrouvé le jeu auquel ça m'a fait penser. Depuis tout à l'heure, j'avoue, je suis sur mon téléphone à me dire « Mais putain, c'est quoi le nom de truc ?» Et ça me fait penser à Hyper Light Drifter, donc qui était dans un univers un peu plus magique, fantasy, tout ça.
Ouais, complètement.
Mais l'animation m'a fait penser à ça, et puis le côté un peu rétro, pixel art et tout, ça m'a fait pas mal penser. Mmh. Et j'avais beaucoup kiffé, je suis plutôt hypé en vrai.
Je suis assez d'accord. En fait, en termes de, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais en termes de gameplay, même ça peut vraiment, ça ressemble à une proposition des Paradrifters, mais en 2D, en vue de côté, quoi. Même tu vois, au niveau du film des combats, au niveau de l'exploration, c'est vrai que c'est assez emprunté, c'est assez proche de ça.
Bah écoutez, ça s'appelle Narita Boy et c'est dispo dans le Game Pass dès maintenant, donc allez vous faire plaisir. On continue, voilà. Il y a plusieurs jeux en fait que j'ai retenus parmi tous les... Il y en a une petite dizaine et on va faire un jeu. Je vais vous lire en fait, j'ai mis dans les notes de l'émission, j'ai mis ce que ça a... Non, ça va être un jeu pour les auditeurs, pour décrire un petit peu les jeux et le trailer. J'ai mis la description pour m'en souvenir, en fait, parce qu'il y en a tellement, j'arrivais pas à me souvenir de quel jeu était quoi. Et donc, je vais vous lire cette petite description en quelques mots qui est là pour définir l'essence de ces jeux. Le premier, c'est un truc qui s'appelle Loot River, et la description que j'en ai fait, c'est Tetris Children of Morta. Donc, je ne sais pas si vous avez joué à Children of Morta, mais je pense que vous connaissez Tetris. En gros, c'est un jeu d'action-aventure, ce jeu, avec des éléments de Tetris dans l'exploration. C'est-à-dire qu'on est sur une rivière et on est sur des plateformes qui ont des formes de pièces de Tetris et il faut les déplacer pour progresser d'un endroit à l'autre. Mais en même temps, sur les plateformes, il peut y avoir des monstres qu'on va devoir combattre et qu'on peut combattre soit en leur mettant les plateformes sur la gueule, soit en se battant. Il y a un vrai système de loot d'équipement à la RPG classique, qui est d'ailleurs assez esthétiquement intéressant. Et du coup, le mélange entre les deux est complètement improbable. Et moi, ça m'a vraiment intrigué. Et je suis très, très, très curieux de voir ce que ça va donner, ce jeu. Donc, c'est un truc que j'avais pas du tout, qu'on peut pas vraiment imaginer, mais qui est vraiment intriguant. Je vous recommande d'aller voir de quoi il s'agit. Ça s'appelle Loot River.
Bah, tu vois, dans la liste des jeux que... Excuse-moi, Fanny, je finis juste. La liste des jeux, dans toute la liste des jeux, là, hier soir, j'ai un peu scrollé tout. C'est vrai que c'est celui qui m'a le plus interpellé parce qu'en plus, il a une DA assez sympa, alors que bon, c'est... Enfin, tu vois, ça a l'air d'être un truc très très classique hein, en termes de. Même s'il y a ce côté Tetris effectivement qui est intéressant, mais je pense que c'est celui qui m'a le plus interpellé.
Ouais, il y a quelque chose d'intéressant. Fanny, oui.
Ah non, moi, celui qui m'a le plus interpellé, c'est celui qui est juste après l'oiseau à épée.
Alors, oui, bah, parlons.
Oui, ça a l'air bien ça aussi.
Parlons de l'oiseau à épée. Alors, l'oiseau à épée. Ça, c'est mon autre petit résumé. L'oiseau à épée, c'est un jeu édité par Devolver Digital qui s'appelle...
Déjà, ça s'annonce bien.
Exactement, c'est un peu une garantie de qualité. C'est un jeu qui s'appelle Death's Door, donc la porte de la mort. Et c'est là encore une esthétique vraiment particulière dans un monde où il n'y a que des oiseaux. C'est un monde, en fait, c'est le monde normal, mais tous les gens sont des oiseaux. Enfin, le monde normal, non, pas tout à fait, mais là, dans le début de la présentation du trailer, il est dans un bus, et puis il descend le bus, il arrive dans une sorte, je ne sais pas, d'asile ou de ville, et c'est un oiseau, et puis il va passer une porte, et il a une grosse épée dans un truc un petit peu administratif, tout le monde est en train de taper sur des machines à écrire, et puis... On commence à voir le gameplay lui-même. C'est tout le trailer est en noir et blanc. Le gameplay, c'est beaucoup plus proche de, je sais pas, tous les jeux. Maintenant, j'ai l'impression que tous les jeux, on peut les décrire comme genre, c'est entre Hades et Dead Cells et Children of Morta, quoi. C'est un petit peu ce genre de choses. Et ça a l'air d'être un jeu d'action vu de dessus à la Diablo. mais très très beau. Et on joue, donc, c'est l'essentiel, un oiseau qui a une épée et une sorte de sabre laser. C'est très très beau, très intriguant. Mais oui, donc toi, ça t'a... c'est celui qui t'a marqué, Fanny.
Moi, je suis hyper fan des animaux anthropomorphes. Hein. Chez Gobbins, on commence à les cumuler en plus. Donc, je ne suis que joie.
Ouais.
Donc ça, plus ouais, l'univers qui est un peu spooky, magique, machin. Et puis, édité par Devolver, comme on disait, genre, ouais, pour moi, c'est un grand oui. Ouais, j'ai grave, grave envie de le tester. Et puis, c'est pas le genre de jeu comme Monster Hunter où tu as besoin de sacrifier ta vie sociale pour commencer à y jouer. Donc, moi, je suis grave
partante
pour ce jeu-là.
Alors, celui-là, il va arriver cet été. C'est sûr, comme le précédent, c'est sur PC et console Xbox. Et quand tu dis oiseau anthropomorphe, en fait, oui, il peut attraper. Il a une sorte d'aile qui est visiblement aussi préhensible qu'une main, parce qu'il peut attraper son épée. Mais c'est pour ça que j'ai dit oiseau avec épée. C'est un oiseau. C'est vraiment genre pas un pigeon, entre un pigeon et un corbeau. C'est un oiseau, quoi. C'est pas un humain qui a une tête d'oiseau. C'est vraiment juste un oiseau. C'est vraiment particulier. Le suivant, encore une fois, Children of Morta, c'est Children of Morta Cross Path of Exile. Donc Path of Exile, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu. Oula. J'ai du bruit qui m'arrive dans les oreilles. C'est un jeu qui est... c'est un Diablo.
C'est un hack and slash.
Voilà, un hack and slash. Et là, c'est un hack and slash à la Children of Morta, donc en rétro-pixel, en pixel art assez... 16 bits, on va dire, mais avec une complexité qui est importante, qui a l'air importante, avec énormément, énormément de complexité. Et ça a l'air assez fou, quoi. C'est un truc qui m'intrigue vraiment. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder le trailer.
Ouais, je l'ai regardé. Ouais, là, je suis devant pendant que je te parle. Bah, en fait, le souci, c'est... moi, je t'avoue, visuellement, par contre, je commence un peu à saturer ce style visuel. Ça, ouais. Ça fait beaucoup penser à Enter the Gungeon aussi.
Un peu.
Ce côté des dessins, pixels un peu ronds, machin. En vue du dessus, je suis pas sûr d'avoir envie de rejouer encore à ce genre de jeu. Après, le système de craft hyper, hyper poussé et tout, ça peut être intéressant. Mais en termes d'originalité, c'est pas celui que je vais retenir. Quoi.
Bah, j'ai l'impression que l'originalité, ou en tout cas l'excès, vient du système de gameplay, d'équipement et de capacités, c'est-à-dire qu'on peut combiner plein de capacités différentes. J'ai l'impression qu'il y en a des dizaines et l'écran est rempli d'ennemis et on les massacre vraiment comme dans les meilleurs moments de Diablo et il y a énormément de loot, etc. Donc, bon, je sais pas si ça sera bien au final, mais moi, ça m'a intrigué, on va dire.
Contre, c'est clairement le mec de Shovel Knight. Le héros.
Non, mais j'ai l'impression qu'on peut choisir son héros. Il y a un petit peu ce genre d'esthétique, ouais.
Ah oui, il y a une meuf rousse aussi.
Ouais, je crois qu'on peut choisir différents types de personnages. Le suivant, bah justement, on en arrive au sujet. Je le décris comme Darkest Dungeon Master. J'espère que vous apprécierez ce jeu de mots vidéoludique. On me dit qu'il y a trois classes dans le jeu. Merci, Thomas. Darkest Dungeon Master, c'est Legend of Keepers, qui est... ça me fait penser par l'interface à Darkest Dungeon, mais on joue le grand méchant qui veut empêcher les aventuriers de conquérir le donjon et de gagner. Et bah, du coup, c'est justement un jeu qui est édité par Goblins. Donc, peut-être que Fanny, tu peux nous en dire un mot ?
Je ne connais pas ce jeu. Je n'ai jamais entendu parler.
D'accord. Bon, bah, écoute, ce n'est pas grave. Il a l'air cool.
Par contre, je te rectifie, Patrick. Je suis désolé de faire bon relou, mais du coup, c'est Darkest de John Keeper, pas de John Master.
Ah, mais oui, tu as raison. Très bien, attention. Très bien. Écoute, tu m'as battu à mon propre jeu. Oui, Fanny ?
Mais ta blague marche très bien parce que nous, en fait, quand on fait des pubs sur Twitter, Reddit et tout, on met des fois Reverse Darkest Dungeon. Et ça marche très bien. En général, les gens captent direct en un instant de quoi ça parle. C'est un bon choix de mots. Et donc, ouais, Legend of Keepers, bah, ça fait plus d'un an que moi, je bosse dessus. Donc, du coup, je suis community manager. Donc, j'ai pas mal joué au jeu, contrairement aux développeurs qui, finalement, jouent pas tant que ça, en général, à leur propre jeu. Mais moi, je joue pas mal pour faire des records, faire des screenshots, faire des gifs, faire des mèmes. Donc, ouais, ce jeu, ça fait un petit moment que je suis dessus. Et là, c'est assez ouf parce que ça y est, on arrive à la fin, en tout cas, du développement. Même si on a encore pas mal de choses sur lesquelles on bosse, mais j'ai rien le droit de dire, c'est trop frustrant.
Mais il sort dans pas longtemps, hein, c'est le 29 avril qui sera dispo.
Le 29 avril, exactement. On a annoncé la date hier, je sais déjà plus. D'ici là, on va avoir quelques petites annonces. Et puis même encore après le 29 avril, il y a pas mal de choses qui devraient arriver. Comme j'ai dit, je ne peux rien dire. Mais ça va être vraiment cool.
Mais du coup pour Reverse Darkest Dungeon, c'est assez explicite, mais quand même, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le ce qu'est le jeu? Est-ce qu'on construit les donjons? Est-ce qu'on a des équipes de méchants, de gentils qui arrivent qu'il faut tuer? Comment ça se passe en fait?
Eh ben c'est ça, en fait on a une équipe de plein de monstres qu'on recrute. On a un petit peu le délire, c'est une entreprise donc qui s'appelle la Compagnie des Donjons. Et du coup on joue un maître de donjon, donc il y en a trois, il y a le centaure, la dryade et la monkey engineer, la singe ingénieur.
D'accord.
Et du coup, en fonction déjà du maître qu'on choisit, le gameplay va être un petit peu différent. On va pas avoir les mêmes monstres de base, pas les mêmes pièges, pas les mêmes donjons, pas les mêmes capacités. Et du coup, l'idée, c'est que voilà, on va gérer son donjon, donc on alterne entre des phases de combat où on a donc des salves de trois héros qui viennent attaquer notre donjon, on doit défendre en plaçant des monstres, en plaçant des pièges, en lançant des sorts. Bonjour.
Il y a ma femme qui est venue dire bonjour, elle m'a mis un paquet. Donc bonjour à tous, vous ne l'avez pas entendu, mais elle dit bonjour. Vas-y, continue.
Du coup, on alterne entre des phases de combat et des phases de journal, un espèce de journal de bord, où on a des events, on recrute des monstres, on les level up.
Donc c'est mi-gestion, mi-phase de gameplay. Et le gameplay, c'est du tour par tour, c'est ça?
Exactement, tout à fait. D'accord. Oui, tour par tour. Okay. Voilà. Et l'idée, c'est de ne pas, de faire en sorte que les héros n'arrivent pas jusqu'au maître, parce que si autant les monstres se régénèrent après chaque combat, autant le maître ne récupère pas ses points de vie. Donc si jamais le maître qui est au bout du donjon, qui est un peu le boss, on a d'ailleurs des mini-boss aussi, à partir d'un certain moment de jeu, on commence à avoir des salles supplémentaires, et plein de choses qui viennent s'ajouter, plein de features qui viennent complexifier le gameplay. Mais du coup, voilà, ce qu'on vient de voir à l'écran, quand le maître tombe, c'est game over, on doit recommencer. Le côté roguelike, c'est plus roguelite, du coup, parce qu'en fait, quand on perd, il y a quand même on gagne des points, on peut ajouter des bonus à notre maître et ça se renforce d'une game sur l'autre.
Ça a l'air assez intéressant, on verra ça, on suivra ça. C'est donc le 29 et c'est sur à peu près toutes les plateformes.
Et c'est la fin de l'Early Access aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais du coup, le jeu est en Early Access depuis un an. Et donc là, c'est la fin de l'Early Access et il y aura deux nouveaux modes, Ascension et Endless. Voilà.
J'ai pas fait mon travail. On peut l'acheter déjà en Early Access? Ou l'Early Access est fini, on ne peut plus l'acheter?
Si. Attends, tu me mets le doute. Je vais regarder.
Parce que là, si ça a donné envie aux gens...
Ouais, c'est bon, il est à 17,99€ en Early Access sur Steam, GOG, Epic. Non, il n'est pas encore sur Epic. Il sera disponible justement le 29 avril sur Epic et Switch et Stadia.
Super, voilà. Écoute, il est partout. Mais en tout cas, il est déjà en Early Access sur Steam, donc si ça vous a plu, vous pouvez aller le tester. Et il y a Neurodeck aussi. Alors celui-là, je vais être complètement transparent avec les auditeurs, hein. C'est important. Darkest Dungeon Keeper et pas Master, enfin je vais donner le vrai nom, c'est Legend of Keepers. Je l'avais mis dans la liste et j'étais très intrigué, comme je le disais tout à l'heure, avant que je me rende compte que c'était Goblins, et donc je voulais en parler. Mais tu as mentionné aussi Neurodeck, qui est un autre jeu qui est édité par Goblins, qui du coup est disponible maintenant, si je ne me trompe pas.
J'ai plus la date sous les yeux. Je vais regarder mon carnet.
C'est un roguelite de cartes encore.
Le 18 mars, je crois.
Ouais,
je
c'est crois ça. Qu'il est sorti. Il est déjà sorti. Mais donc, c'est un autre jeu Goblins que tu voulais évoquer aussi. C'est quoi ce jeu?
Ouais, alors c'est un jeu de cartes. Je crois que le sous-titre c'est Neurodeck Psychological Deck Builder. D'accord. Et donc c'est un jeu de cartes qui parle de la santé mentale. Où du coup on crée notre deck au fur et à mesure de la partie et on va combattre des phobies. Donc ce qui est cool, c'est que en fait en travaillant sur ce jeu, j'ai découvert plein de phobies que je connaissais pas du tout. Je les ai plus en tête, mais genre il y a la peur de l'accouchement. Donc, la créature est absolument abominable avec un gros bidon et puis t'as le bébé. Écoute, qui sort.
Non, mais arrête-toi, on attend notre fille dans les quelques jours qui viennent. Donc bon, je vais pas jouer à Neurodeck. C'est fini.
Ah mais t'as la peur des microbes, la peur.
Ah bah ça tombe bien pour la pandémie, c'est parfait.
Ah ouais. Mais il y a plein de... En fait, il y a énormément de phobies, je savais pas, genre quasiment tous les trucs que tu peux imaginer, il y a une phobie qui existe et il y a un nom latin pour, et il y a des gens qui en souffrent vraiment.
Est-ce qu'il y a une phobie de que les gens n'aiment pas le dernier épisode du rendez-vous jeu que tu viens de faire ou de ta création sur YouTube? Je suis sûr qu'il y a une phobie pour ça aussi. Pardon, j'arrête de t'interrompre.
Non, mais doit y avoir un truc genre la peur, tu sais, genre la peur de la page blanche ou la peur de que ton travail soit pas apprécié. La peur de ne pas être assez. Mais oui, mais en fait, on est des êtres humains remplis de peur. Donc, c'est assez normal. Et c'est super intéressant, je trouve, que le jeu essaye de combattre ça avec des cartes du quotidien. Je trouve ça assez intelligent. Genre, il y a plein de petites choses. Genre, pensée positive. Il y a une carte, c'est genre pensée positive. Il y a une carte, c'est pizza. Ça s'appelle Comfort Food, d'ailleurs, je crois. Une carte, c'est le thé... un thé chaud, il y en a une, c'est lever de soleil, amitié, voilà, t'as plein de petits éléments du quotidien qui t'aident à combattre tes peurs et je trouve que c'est un beau message en fait.
D'accord, intéressant, donc à voir si vous pensez que ça pourrait vous plaire, ça s'appelle Neurodeck et c'est déjà disponible. Bon, on continue avec ma petite série. Il m'en reste 3 ou 4 des jeux que je voulais évoquer. Pixel Art Platform Fighter with Multi Paris. C'est Savior. Alors, c'est un...
On va faire du marketing de jeu. En fait, ça a des bonnes pubs comme ça. Des bons slogans. N'est-ce pas ?
Exactement. Celui-là, il avait... Oula, pardon, j'ai du bruit dans les oreilles. Celui-là, il avait été présenté sur le Future Game Show. C'est un jeu de plateforme à vue sur le côté. Et il y a... En fait, certains éléments assez intéressants, dans le combat par exemple, on a vraiment la possibilité de parer en haut à droite, en haut, au milieu, en bas, avec la possibilité de sauter pour éviter les coups qui sont donnés en bas, ce genre de choses, et c'est hyper bien animé, et donc ça rend des combats, alors que c'est vraiment, c'est du pixel art avec un petit peu d'ombre, donc c'est assez joli, mais c'est quand même du pixel art, et les animations sont tellement bonnes que ça donne des combats genre chorégraphiés, hyper dynamiques. Ça, c'est ça qui m'a le plus marqué dans le truc, ça a l'air assez difficile quand même, je pense qu'il faut, et ils le disent dans le trailer d'ailleurs, faut vraiment lire les attaques des ennemis parce que elles sont entre guillemets télégraphiées, on les voit venir, mais on a une demi-seconde pour réagir, donc ça a pas l'air facile. Mais par contre, c'est vraiment, ça rend au niveau des combats une chorégraphie qui est un petit peu, comment dire, presque une chorégraphie de bons films de kung-fu, quoi. Après, il y a d'autres points forts dont il parle dans l'explication. Il y a le mouvement et d'autres choses, mais ça, c'est ce qui m'a le plus marqué.
Bah tu vois, c'est là je regardais et autant tout à l'heure on critiquait, je sais plus comment il s'appelait, le Pass of Exile machin. En fait, moi maintenant ce qui fait la différence, je trouve, entre un jeu en pixel art qui m'attire ou pas, c'est, je pense que c'est l'animation en fait, vraiment. Parce que là tu vois, j'en parlais dans Narita Boy, quand c'est fluide, quand il y a une impression de maîtriser ton personnage, bien voir les mouvements des ennemis, etc., avoir un truc vraiment à bien animer. Ça fait, pour le coup, ça fait une vraie différence. Et là, tu vois, ce que je vois me plaît beaucoup.
Ouais. Bah, ça s'appelle Savior. Vous pouvez aller voir le trailer directement. Il est censé sortir à l'hiver 2022. Donc, ce n'est pas pour tout de suite non plus. Ils sont vraiment en cours de développement. Oui. Là, on n'est plus à des arrivées, enfin, des jeux qui vont arriver bientôt. Donc, ça s'appelle Savior. Battle Royale à épée et grappin, c'est Naraka, qui est un jeu, je crois que c'est coréen, je crois. On va passer un peu plus vite sur les suivants, mais Naraka Blade Point, c'est vraiment un Battle Royale. Là, pour le coup, on est en 3D et c'est hyper, hyper dynamique. C'est des combats de contact, donc à l'épée. C'est pas des trucs qu'on va se tirer dessus au flingue. Donc, il y a un petit facteur différenciant pour les Battle Royale. Et puis surtout, il y a un grappin un petit peu à la Monster Hunter Rise, mais de beaucoup, beaucoup plus loin, qui dynamise les déplacements.
Est-ce que c'est un grappin qui s'accroche sur rien ?
Je crois que celui-là, il faut l'accrocher à quelque chose. Donc, beaucoup plus réaliste que Monster Hunter Rise. Et il sert pour les combats et pour les déplacements. C'est assez beau. C'est de la 3D vraiment de qualité. Et ça, c'est intéressant de se dire qu'ils ont en fait compensé le fait que les combats étaient au contact, parce qu'on a des armes, des épées, ce genre de choses, des armes, comment on dit, des armes blanches, voilà. Et ils ont compensé ça avec le grappin qui permet de se déplacer d'hyper, hyper loin. Bon, après, c'est un Battle Royale, hein, mais c'est un Battle Royale qui a l'air d'être un petit peu original au moins. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Ça m'a intrigué, on va dire. Ça s'appelle comment déjà ? Naraka Blade Point. Et celui-là, il arrive normalement cet été. C'est uniquement sur PC à ce stade.
Encore un univers japonais.
On a d'ailleurs les forêts de bambou. Moi, je me suis remis à Ghost of Tsushima parce qu'il y a eu l'annonce dont on va parler dans un instant du film Ghost of Tsushima réalisé par le réalisateur de John Wick, ce qui, quand on parle de chorégraphie de combat, est plutôt pas mal. Mais donc, je me suis remis à Ghost of Tsushima et les forêts de bambou, ça me parle. Et là, on est en plein dans ça. C'est assez beau. La bêta publique commencera le 23 avril et elle ne dure que 2 jours. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez le tester à ce moment.
C'est bien vivre ça par procuration dans la mesure où on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra retourner au Japon.
C'est ça, exactement. Moi, c'est l'un de mes grands malheurs. Ça fait, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais l'année dernière, j'ai annulé mon voyage au Japon pour cause de pandémie. Le 28 février, dans l'aéroport, après avoir passé la sécurité. Donc, quand on parle de voyage au Japon, ça me prend vraiment au trip, tu vois.
Un petit trauma.
Exactement. Astria Ascending. Alors, les deux derniers, on va en parler parce qu'il faut en parler. Il y a d'une part Astria Ascending qui est fait par, on va dire, des anciens de Final Fantasy et qui est un jeu c'est stratégie, jeu de rôle. Je vous avoue que... Comment dire ? Ben, il sera sur le Game Pass, donc vous pourrez le tester sans... C'est pas stratégie, c'est vraiment jeu de rôle.
Ouais.
C'est de la même manière que JK disait ouais moi j'en ai marre du pixel art, moi j'en ai marre des anciens de Final Fantasy qui font des trucs quoi, je sais pas pourquoi, c'est genre
ouais
bon
après c'est voilà. Visuellement on dirait plutôt un jeu VanillaWare, donc tu sais
complètement ouais.
Studio qui fait j'ai malheureusement les noms m'échappent, mais visuellement c'est la 2D très léchée. Dragon's Crown
voilà.
Muramasa, ce genre de truc, avec une sorte de 2D très léché, très, très joli. Hein. Moi, après, je ne suis pas hyper client de ce type de visuel. Mais par contre, je peux comprendre que les amateurs soient en joie du truc, tu vois.
Ouais. Et puis, il y a des gens qui sont... Enfin, c'est clairement un truc qui va trouver son public, je pense, mais c'est... Et si ça se trouve, il est super bien et je l'adorerais si je le teste, c'est sûr.
C'est un co-développement avec un studio français aussi.
Ah, ça, j'avais pas vu.
Ça, c'est intéressant.
D'accord.
Ouais, c'est, en fait, c'est les. Et je crois que c'est édité par. Dear Villagers, tu sais, c'est
oui, un tout à fait, français. Oui.
T'as raison. Non,
en gros, voilà, c'est. Non, mais c'est la même veine que. C'est la même veine que qu'effectivement. Que ce que fait Goblins, j'imagine, en termes d'édition. Ouais.
C'est ça. Ouais. Donc, ça s'appelle Astria Ascending et ça arrivera en 2021 à un moment. C'est du JRPG un petit peu... Enfin, en tout cas, c'est du combat jeu de rôle tour par tour. Et puis, le dernier dont je voulais parler, dont il faut presque parler, c'est justement Nobody Saves the World de Drinkbox, qui a développé le Guacamelee dont on se souvient bien. Les graphismes, moi, ça ne me parle pas du tout non plus. C'est un petit peu comics américain, mais genre... J'ai presque envie de dire Cradoc. Mais le gameplay a l'air intriguant. C'est là encore une sorte de dungeon crawler. On a différentes formes qu'on peut maîtriser et combiner pour évoluer dans le donjon. Et je suis curieux de voir ce que ça donne, on va dire. Même si, a priori, ça ne m'attire pas à première vue, le trailer me fait me poser des questions, on va dire, sur ce que ça donne vraiment en pratique, l'idée de combiner ces formes, parce qu'il y en a plein de différentes. Et bon, voilà, je jetterai un œil dessus, on va dire.
Ah, c'est marrant, ça me fait un peu penser à Rogue Heroes qui est sorti il n'y a pas très longtemps, auquel j'ai joué. Le truc de tu tapes des donjons et tout, la cam aussi a un petit peu le même positionnement. Mm-hmm. Mais pour le coup, moi j'aime bien les graphismes. C'est pas le genre de jeu que j'aime en général, mais je sais pas, l'univers et surtout l'humour ont l'air vraiment chouettes. J'avais bien aimé ça, j'avais bien aimé Guacamelee déjà tout court, et je sais pas, genre ça a l'air un petit peu humour satirique qui se prend pas au sérieux et tout. Donc, franchement, à tester quand même.
Tout à fait. Et ben, il sera là encore sur le Game Pass, donc les abonnés au Game Pass pourront facilement lui donner sa chance. Et voilà pour les petits jeux que je voulais évoquer. Il y en avait vraiment des tonnes. Il y en a deux fois plus qui sont dans la liste des jeux que je ne mentionne pas. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été annoncées. Donc, n'hésitez pas à aller regarder du côté de l'Indie Showcase de ID at Xbox ou du futur Game Show. Il y a plein de choses intéressantes à voir là-bas. Sur le Game Pass aussi, quelques notes à faire. Les jeux rétro-compatibles commencent à arriver sur le streaming, donc sur le xCloud. Donc, c'est plus que les jeux Xbox One qui sont sur le xCloud. Il y a aussi des jeux Xbox 360 et Xbox One. Il y a une petite sélection au départ, mais ça s'étend. Donc, cette fonctionnalité gagne en richesse. Et le test des jeux gratuits, des jeux free-to-play sans Xbox Live est en cours. Donc, ça devrait arriver aussi bientôt. Et puisqu'on parle de trucs gratuits, le PS Plus, enfin de trucs gratuits, voyez que je mets les guillemets, le PS Plus va offrir ce mois-ci Days Gone, ce qui est bon, un jeu sympathique à avoir, et aussi, on le savait déjà, mais je le reprécise, Oddworld Soulstorm, qui est sans doute l'un des seuls moyens de me faire tester Oddworld Soulstorm, que j'aimerais peut-être, mais qui a priori n'était pas mon truc. Et bien là, on le savait déjà, comme je le disais, mais c'est pour rappeler que c'était l'un des jeux qu'ils avaient mis en avant à de nombreuses reprises. Et ben, il sera gratuit sur le PS Plus. Par contre, si vous avez une PS3 ou une PS Vita, on a eu la confirmation officielle que les stores allaient fermer pour ces consoles cet été. Et ça m'attriste un peu, ça m'a poussé à ressortir ma PS Vita que j'ai là dans les mains et que je tiens avec amour. Alors, c'est une PS Vita, c'est une série 2000, donc c'est pas la belle avec le bel écran OLED, mais quand même, je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. Et c'est marrant comme elle est tellement plus petite et compacte que la Switch. Ça me donne envie d'avoir soit une Switch qui est aussi compacte, soit que Sony refasse une nouvelle console portable. C'est vraiment très, très cool comme console. Elle est vraiment, vraiment sympa. Et si vous avez des jeux qu'il faut acheter avant que le store ne ferme, parce qu'on pourra bien sûr toujours les retélécharger. Hein. Certains ont pensé que ça voulait dire qu'on ne pouvait plus avoir les jeux du tout, mais on pourra toujours les retélécharger, en tout cas pendant un moment. J'ai acheté évidemment Gravity Rush, Uncharted Golden Abyss, etc. Et Persona 4, je crois que c'est The Golden que j'avais sur PS Vita. Et j'ai Dancing All Star. Enfin bref, il faudra que je regarde les incontournables de la PS Vita pour les acheter, les télécharger, les avoir sur ma console avant que le store ne disparaisse à jamais, que ça devienne beaucoup plus difficile. Comme ça, je les aurai pour la paternité, décidément, je suis obsédé par ce futur chapitre de ma vie, enfin cette expansion,
c'est normal,
ce
futur,
mais pas pour la pas l'éternité. Ah, mais quel est le terme que je cherche, pas l'éternité, pour la peu, aidez-moi, pour c'est la postérité, voilà, on l'a dit en même temps, décidément c'est difficile.
Par contre, est-ce que ça veut dire que là, tu les récupères, les jeux, tu les as sur ta console, mais si tu les effaces, tu peux pas les retélécharger, tu les as perdus définitivement.
Si, justement, il y a beaucoup de confusion. Les jeux, on peut encore les télécharger si on les a déjà achetés. C'est juste qu'on pourrait plus les acheter parce que le store lui-même va disparaître. Donc voilà.
D'accord, ok. Mais il y aura quand même, les serveurs avec les jeux seront toujours, pour ceux qui ont déjà les jeux, seront toujours ouverts, d'accord.
Tout à fait, on peut les télécharger. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent à des jeux PS Vita quand tu parles de serveurs multi, mais bon, ils seront ça ensuite, c'est à la charge de l'éditeur. Par contre, le téléchargement d'un jeu sur les serveurs de Sony sera toujours possible. Enfin, jusqu'à nouvel ordre, hein, ça se trouve, dans 5 ans, ils vont nous dire « Bon allez, suffit ces conneries, adieu vos jeux, quoi. »
ça va dépendre de l'activité, quoi.
Bah, en fait, c'est le genre de truc où tout le monde se dit « Mais merde, mais fuck, j'ai acheté un jeu, maintenant j'ai plus le droit de le télécharger. » Évidemment, ça sera problématique. J'imagine qu'il y aura un truc qui va se passer à ce moment de la part de Sony. Peut-être qu'ils vont donner un peu d'argent ou je sais pas. Mais c'est sûr que ça va être un problème à un moment. D'ailleurs, sur YouTube, la vidéo de la semaine parle des avantages et des inconvénients des versions boîte et des versions dématérialisées et de tout ce qu'a permis, que les gens ne suspectent pas forcément, l'arrivée du dématérialisé. J'ai fait une petite vidéo là-dessus d'une dizaine de minutes. Allez regarder ça. Si ce sujet vous intéresse, je pense que ça pourra vous plaire. C'est sur youtube.com/notepatrick, bien sûr. JK, je t'invite à aller y jeter un coup d'œil.
Mais bien sûr, j'ai l'habitude.
Tu l'as déjà vu 4 fois, en fait. C'est ce que tu allais me dire.
Au moins, ouais. Je l'ai fait tourner en boucle toute la journée.
Ah merde.
Pour faire des vues, en fait.
C'est toi, mais 4 vues sur la chaîne, Damned.
Gloire et puissance à notre Patrick. Gloire et puissance à notre Patrick.
Cyberpunk, on a eu un patch qui est arrivé.
Tu ne peux pas parler de Cyberpunk. Tu avais l'intention de ne pas parler de Kina et de The Wild at Heart.
Moi, j'avais des trucs à dire. Ah, mais on peut, bien sûr. Tu veux dire Kena Bridge of Spirits, dont on a vu un nouveau trailer dans le futur game show. Bien sûr, dis-nous tout.
Ça a l'air trop bien. Mais j'étais trop hypée. Et du coup, là, j'ai vu que c'était dans ta liste. Je pensais que tu allais en parler. Et du coup, je me suis dit, non, tu vas parler de Cyberpunk.
On peut. Tu sais, entre les deux, Cyberpunk est beaucoup moins intéressant. Donc... Kena Bridge of Spirits, on en a beaucoup parlé parce que c'était l'un des jeux les plus beaux de la PlayStation 5 et on a vu un petit peu plus d'extraits ces derniers temps, notamment avec des extraits de gameplay et il semble y avoir un système de combat qui a une place importante dans le jeu. Donc, et là, on a vu encore plus de combats dans le dernier trailer du Future Games Show. Donc ouais, dis-nous tout, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu avais à nous dire ?
Bah, cette semaine, j'ai vu le dernier Disney, là, Raya et le dernier dragon, et j'ai l'impression qu'il y a genre vraiment la même vibe. Ça me fait un peu l'impression, moi je suis une grosse fan de Mononoke, c'est mon film préféré, et du coup j'ai l'impression qu'il y a un peu cette vibe-là, mais dont Disney s'est emparé. Et en plus, il y a des espèces de... Je l'ai noté, grosse noiraude. Voilà.
C'est un peu coup, ça, ouais, là, c'est vrai.
J'ai l'impression que ça réconcilie les fans de Ghibli et les fans de Disney. Et en plus, bah, une héroïne badass dans un univers fantasy, magique. Ça a l'air vraiment, vraiment stylé. Je suis méga hypée. Ça faisait longtemps qu'un jeu ne m'avait pas autant intriguée. Et en plus, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir. Parce que là, on a vu plein de jeux qui ressemblent à des choses qu'on a déjà vues. Et là, j'ai l'impression qu'ils s'aventurent sur un terrain qu'on ne connaît pas trop. Qui est plus un terrain du film d'animation et moins un terrain de... Et je sais pas,
En matière de gameplay, je pense quand même que ça a l'air très 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 classique, mais ce qui est pas forcément un défaut. Alors, je pense que si c'est bien fait, ça peut être sympa. Moi, en fait, je vois quand même un jeu qui va être intéressant effectivement par son visuel, mais en gros, tu sais exactement dans quoi tu te lances en termes de gameplay, quoi, en termes de mécanique de jeu.
Je crois que
encore une fois, si c'est bien fait, si c'est efficace, ça peut être super sympa.
Complètement. Je crois que c'est vrai.
Monstre, j'espère que c'est pas un truc un peu Monster Hunter.
non, je crois pas, j'ai pas l'impression. Mais je crois qu'on en sait tellement peu sur le jeu, on en parle à cause de ces graphismes qui sont impressionnants et ces animations qui sont impressionnantes. Ça peut aller dans les deux sens, disons. Soit ça sera une très bonne surprise et ça sera vraiment fun, soit le gameplay va être tellement décevant que ça réussira pas à compenser la beauté des graphismes et des animations, mais en même temps, il peut y avoir une histoire prenante. Enfin, mais on est vraiment dans le noir pour ce jeu. On est tous très intrigués, je crois. C'est difficile de voir ça et de pas être intrigué. Mais
on est dans le noir.
On est vraiment dans les noiraudes. Ça sort le 24 août sur PC et PlayStation. Je pense que c'est sur PlayStation 5 qui sera vraiment intéressant, mais je me demande s'il sera sur PlayStation 4 aussi. Je ne suis pas tout à fait sûr. Je croyais que c'était PlayStation 5 seulement, mais en même temps, un éditeur tiers, j'imagine qu'il a intérêt, à moins d'avoir beaucoup d'argent de Sony, à sortir sur toutes les consoles. Mais je ne sais pas si ça serait... Si, ça serait sûrement possible à sortir sur PS4 aussi. Pas aussi beau, bien sûr.
Casting qui dit PS4 aussi.
PS4 aussi, bah voilà. Donc, je pense qu'il sera... Là, c'est les versions PS5 qu'on nous a montrées, quand même. Et l'autre jeu que tu voulais évoquer, que j'ai failli mettre dans ma liste à moi, c'est Wild at Heart. Et je vais te laisser en parler du coup, parce que je t'avoue que moi, de ce que j'en ai vu, j'en sais pas grand-chose. Et c'est un des jeux qui sera sur Game Pass et il sort dans pas si longtemps, dans un mois et demi, je crois, le 20 mai. Je suis, comment dire, intrigué, mais pas forcément séduit. Toi, tu as l'air de l'attendre avec impatience, Fanny.
Alors, bon, je t'avoue que je suis en train de me remettre la page Steam sous les yeux parce que je me souviens plus du gameplay. Mais en fait, je l'ai testé à la PAX East. C'était mon dernier voyage juste avant la vague confinement, etc. Et c'était mon gros coup de cœur de la PAX East. En plus, j'ai rencontré le développeur avec qui je suis toujours en contact, qui est un mec adorable, Alex Atkins d'ailleurs, qui est le narrative designer chez Moonlight Kids. Et le jeu est super chouette. Enfin, la musique m'a vraiment touchée. L'univers est tout mignon. Les personnages ont l'air vraiment vraiment chouettes. Et au niveau du gameplay, en tout cas, c'est vraiment facile à prendre en main. Moi, j'aime bien les jeux qui demandent pas trop de skill et qui sont un peu chill. Et les mécaniques, je me souviens pas de tout. Il faudrait que j'y rejoue. En plus, c'était un petit peu rapide. Souvent, sur les events, t'as pas trop le temps, donc tu testes 10 minutes et puis tu discutes en même temps avec les devs.
Mais c'est vrai que ce qui marque, en fait, ce qui marque au-delà du gameplay, c'est vraiment les graphismes. Et l'animation, c'est un peu des décors en papier découpé, je dirais, mais vraiment très beau. Et les personnages aussi sont un peu en papier découpé, mais c'est pas non plus... c'est un peu péjoratif de dire ça, je crois, mais c'est pas le cas. C'est vraiment beau. Et c'est une aventure dans la nature qui est intrigante. Je ne sais pas très bien comment le décrire, mais graphiquement, ça ne laisse pas indifférent. Et c'est surtout ça qui m'avait marqué. Donc, il sera dans le...
J'ai l'impression... Vas-y.
Non, je dis juste qu'il sera dans le Game Pass, donc on pourra là encore tous le tester. Mais oui, vas-y.
Bah, de ouf. Et puis là, en regardant le trailer que tu diffuses, en fait, je me rends compte qu'il y a plein de mécaniques que je ne connaissais pas. Et donc, je me demande si ce n'est pas le genre de jeu qui arrive à te surprendre tout au long de ton gameplay, quoi.
Ouais. Donc, gardez un œil dessus. Ça s'appelle The Wild at Heart. Et il arrive le 20 mai, notamment sur Game Pass. Il sera aussi sur PC.
C'est bon, tu peux parler de Cyberpunk.
Écoute, tu sais quoi, franchement, c'est pas hyper intéressant. Donc, on va parler de Cyberpunk juste très rapidement. Cyberpunk a reçu enfin son patch 1.2 qui s'est fait attendre, qui corrige des tonnes de bugs, mais qui en laisse quand même certains, ce dont l'Internet s'amuse évidemment. Un peu plus intéressant, c'est le fait que CD Projekt Red a... expliquer qu'ils voulaient changer la manière dont ils font les jeux, c'est-à-dire gestion d'équipe, je pense que c'était important, et puis le développement des jeux eux-mêmes, je pense que c'était important aussi, et ils ont noté que, d'une part, c'était pas très clair, mais le multijoueur de Cyberpunk qui était censé sortir comme un jeu séparé qui devait arriver bientôt, ça sera plus le cas, peut-être qu'il sera intégré dans Cyberpunk tel qu'il est, on sait pas très bien, mais surtout, ils ont annoncé qu'ils voulaient développer des jeux en parallèle, donc plus d'un jeu à la fois, développer les jeux de manière plus agile qu'en cascade, c'est-à-dire qu'avoir un développement qui ne merde pas, en gros, je schématise, mais qui merde pas partout s'il y a un truc qui merde. Et puis, ils veulent intégrer les expériences multi à leurs jeux et pas les développer en séparé, donc ça pourra donner des trucs intéressants à l'avenir s'ils réussissent un petit peu à se ressaisir. Et puis, il y a une petite série de news supplémentaires sur laquelle je vais passer rapidement. Le premier niveau de Hitman 3 est gratuit sur toutes les plateformes, donc vous pouvez aller tester le jeu, mais surtout, il est également gratuit sur Stadia. C'est comme toujours pour les jeux gratuits sur Stadia, un peu dur à trouver parce que Stadia, ils sont à la ramasse quand il s'agit de promouvoir leur service. Mais vous allez sur le store de Stadia et immédiatement, vous pouvez lancer le jeu et commencer à y jouer sans téléchargement ni rien. Donc bon, si vous voulez tester Hitman 3, c'est peut-être un bon moyen de le faire. No Man's Sky a encore une extension, mais on les arrête plus, c'est vraiment assez incroyable, une extension substantielle avec des expéditions qui sont des sortes, vous commencez à un endroit de la galaxie et vous devez aller à un autre et vous démerdez pour y arriver, c'est intéressant. Elite Dangerous va lancer son alpha de Elite Dangerous Odyssey, qui est la partie du jeu qui permet de descendre des vaisseaux. Vous savez, Elite Dangerous, c'est un simulateur de vaisseaux spatiaux, on va dire, et de commerce et de combat spatial, et ben là on va pouvoir sortir des vaisseaux et explorer les planètes et les bases spatiales. C'est un peu tout ce que fait... ah, merde, le nom m'échappe. Citizen... le jeu qui lève des centaines de millions.
Star Citizen,
merci. C'est un peu tout ce que promet Star Citizen, Elite Dangerous est en train de le faire, en fait. Donc, ça m'a fait rigoler. Call of Duty devrait revenir à la Deuxième Guerre mondiale cette année. C'est une rumeur. Et Alan Wake devrait avoir une suite développée évidemment par Remedy et en coopération avec Epic Games. C'est intéressant le coup de Alan Wake 2 parce que Alan Wake est un jeu que ceux qui ont aimé adorent et attendent la suite avec impatience. Et c'est vraiment un jeu culte. J'avais envie de dire niche, mais en fait, c'est un petit peu un jeu culte. Et donc, c'est marrant de voir qu'ils vont avoir peut-être leur... C'est une rumeur, hein, leur Alan Wake 2. Peut-être qu'il serait temps d'avoir un Alan Wake ou remaster, d'ailleurs.
Juste là-dessus, je trouve ça chouette, déjà, s'ils le font, parce que c'est vrai que c'est un jeu... C'est un jeu, je pense, qui n'a pas eu succès escompté à l'époque, même s'il est devenu culte au fil des années. Et... ce qui est intéressant, c'est que Control, donc le dernier jeu de Remedy, a reçu une extension récemment qui fait le lien entre Control et Alan Wake. Donc on comprend que Control et Alan Wake se passent dans le même univers. Donc ils sont peut-être en train de créer une sorte de lore et ce qui serait génial, ce serait que dans Alan Wake 2, tu aies des références à Control, si Alan Wake 2 existe, bien sûr.
À mon avis, si ça arrive, oui, je pense que c'est clair que ça se produira.
Ouais.
Mario a disparu du eShop, enfin c'est Mario 3D All-Stars, donc si vous ne l'avez pas acheté, il est trop tard, comme le dit le même sur internet, Mario est mort. Et Among Us a une nouvelle carte et des nouveaux graphismes. Je me demande s'ils ne sont pas en train d'ajouter Among Us 2 petit à petit à Among Us puisqu'ils ont arrêté le développement. Ouais, Fanny, c'est ton truc Among Us, hein.
Bah, j'y joue ce soir, j'ai pas encore pu tester la nouvelle map. J'y joue, je vais enfin la découvrir ce soir. En plus, j'ai l'impression qu'il y a un peu un nouveau type de gameplay. Il y a une espèce de plateforme où tu peux passer, mais tu peux empêcher les autres de passer. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont mis la barre vachement plus haut sur cette fois-ci. Et en même temps, le succès leur est tombé dessus, c'était pas du tout prévu pour le coup. Donc, on a des news Among Us 2.
Ils ont arrêté. Non, ils ont... En fait, Among Us, comme tu t'en souviens, il était sorti en 2018, je crois. Il a connu une explosion de popularité cet été. Et entre-temps, eux, ils avaient commencé à travailler sur Among Us 2. Mais ils ont arrêté de travailler dessus quand Among Us a connu le succès qu'il a connu. Et donc, je me demande s'ils ne sont pas en train d'ajouter des fonctionnalités qu'ils avaient prévues à la base pour le 2 dans le 1. Et ils se sont dit, bah, évidemment, on ne va pas relancer un autre jeu maintenant que celui-là fonctionne. J'imagine que c'est peut-être ce genre de truc qui est en train de se passer, quoi. Je pense.
Alors, je n'avais même pas suivi qu'ils avaient annoncé qu'ils bossaient déjà sur un 2.
Ouais, ça faisait... personne n'avait entendu parler du studio, ou presque, avant que Among Us devienne la coqueluche des streamers cet été. Et ils ont dit, on va arrêter le 2, on va se concentrer sur le 1, quoi. Donc, et d'ailleurs, il y a des nouvelles fonctionnalités, effectivement, dans le 1. Je suis content de voir que les gens continuent à y jouer. Allez, on parle de mobile.
C'est un jeu qui finira jamais, je pense. Parce que de toute façon, c'est des interactions sociales, donc c'est un méga super support, quoi.
Ouais. Un petit peu de jeu mobile, le jeu Pikmin dont on parlait la semaine dernière est déjà en test, mais uniquement à Singapour, mais donc ils sont déjà en train de tester. Il y a un jeu Crash Bandicoot qui est sorti sur mobile, qui est un Endless Runner, qui s'appelle On The Run, et en 4 jours, il a été téléchargé 20 millions de fois. rendez compte, 20 000... Bon, c'est des téléchargements gratuits, mais quand même. Enfin, c'est Crash Bandicoot. Est-ce que c'est à ce point populaire, Crash Bandicoot ? Clairement, oui.
Ah, c'est une licence qui est revenue vraiment hyper forte là, entre les remakes des trois premiers et le 4, qui est un super jeu. Je pense que vraiment, il y a une espèce de retour de hype assez inattendu hein, de Crash Bandicoot. Quoi.
On en parlait dans l'after show de la semaine dernière. Il y a des gens qui sont très, très fans du 4. Et oui, clairement, 20 millions de téléchargements en 4 jours. Ça donne le
tour. Je croyais que c'était le jeu sur lequel tout le monde rageait. Mais du coup, il y a quand même des gens qui jouent.
Ah bah, clairement, oui, clairement. Et si vous voulez encore avoir le tournis, on a des chiffres sur PUBG Mobile qui aurait vendu pour 5 milliards de dollars depuis son lancement. Et rien qu'en 2020, PUBG Mobile a fait 2,7 milliards de dollars de revenus. Donc là encore, quand on oublie un peu PUBG et on ne pense pas aux jeux mobiles dans nos univers, ça fonctionne PUBG. Hein. C'est toujours une licence à succès. Donc voilà, voilà. Et dernière news, j'en parlais tout à l'heure, Sony est en train de développer un film basé sur Ghost of Tsushima et le réalisateur de John Wick serait en charge de la réalisation. Moi, j'ai hyper, hyper hâte et du coup, je me suis relancé dans Ghost of Tsushima. Mais quel jeu, quel bon jeu. Je suis... Ce coup-ci, c'est bon, je vais le finir, dis-je quelques jours avant la naissance de mon deuxième enfant. J'aime tenter le sort.
Ouais. Bah dépêche-toi.
Ouais, il faut.
Après, quand même, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas parce que le mec de John Wick est aux commandes que ça va être le cas, parce que des projets avec de vidéo et de réalisateurs qui changent tout le temps, il y en a eu des tonnes. Je crois qu'Uncharted, je sais pas combien de réalisateurs il y a eu, mais voilà. Donc bon, on croise les doigts parce que je suis comme toi. Je trouve que c'est une bonne chose parce que John Wick c'est super, c'est très très bien, et en termes de chorégraphie, enfin je veux dire ça peut coller bien. Voilà, ça peut coller vraiment à l'univers. Par contre, à mon avis, faut pas non plus être certain que ce sera lui qui réalisera.
Bien sûr que non. Même être certain que le film se fera. Oui, c'est
exactement.
C'est,
ouais.
La rumeur spécifiquement, c'est chez Polygon, Sony is developing Ghost of Tsushima.
Oui, en plus, c'est une rumeur, ouais.
Donc, est en train de développer, ça veut dire qu'ils sont en train de penser à écrire le script. Tu vois, je pense que ou que sont en train d'écrire
c'est ça,
le script.
Ouais.
On n'y est pas encore.
Ils ont eu un rendez-vous avec le mec et c'est tout.
Ça t'intéresse? Ouais, ça pourrait être sympa. Sony is developing a movie. Voilà. Ouais, bon. Voilà, voilà. Bah écoutez, ça va être tout pour cet épisode. On va faire l'after show pour les Patriotes juste après. Mais entre-temps, je veux quand même que vous nous disiez tous les deux où on peut vous retrouver sur Internet. J.K., où es-tu en ces moments ? Tu sais, J.K., je vais avouer un truc à nos auditeurs. J.K., tu me manques un peu.
Vas-y.
Généralement, dans l'ancien monde, je venais en France tous les quelques mois et on se débrouillait toujours pour aller se faire un petit déjeuner ou un truc. Et là, ça fait plus d'un an qu'on ne s'est pas vu, même plus.
Largement, ouais, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'est quand je travaillais encore chez Numérique, donc ça fait un an et demi, au moins.
Ça fait un moment, ouais.
Et ouais, c'est vrai que les déjeuners avec mon Patrick me manquent un petit peu. Mais sinon, ça va. Enfin, je vais pas commencer à raconter ma vie, c'est pas le truc. Non, on peut me retrouver. Ah tiens, tu sais quoi,
t'as failli me faire cracher mon dos.
Oui, je commençais à parler de ma vie et tout. Tu sais quoi, événement énorme, on a réenregistré un ZQSD à l'ancienne sur place avec 5, on était 5, alors ce qui est pas la
Mais vous êtes fait tester la veille et tout?
Ouais, on a gardé les masques et tout ça, tu vois, on a fait ça bien. Et surtout, c'est l'épisode le plus long de tout ZQSD, puisqu'il dure 4h15. Ça faisait presque un an qu'on n'avait pas fait un podcast à l'ancienne, donc voilà. Non, par contre, juste, c'est de la promo, mais vraiment, je suis hyper content de cet épisode, puisqu'on a élu les GOTY de 2000 à 2004, parce qu'en fait, c'était clairement une promotion pour le livre Génération Jeux Vidéo, là, dont la campagne Kickstarter vient de se terminer, fait par nos amis du magazine JV. Et donc, leur prochain livre, c'est Génération Jeux Vidéo année 2000, et donc, du coup, on s'est dit, tiens, on va s'amuser à lire les jeux de l'année de 2000 à 2004, et on a fait ça sous forme de quiz et de vote, etc. On a beaucoup rigolé, donc c'est un épisode qui fait déjà rager pas mal de gens sur Twitter, parce qu'on a
forcément
il y a certains jeux qui ont été élus, qui ont été éliminés, où c'est un peu scandaleux, donc voilà, même moi je le reconnais.
Je comprends bien ce sentiment. Décider d'un jeu de l'année, c'est jamais facile.
Surtout quand t'as Half-Life et World of Warcraft dans la même liste, tu vois, pour Half-Life 2, World of Warcraft dans la même liste.
C'est la fameuse année 2004 fais, légendaire dans le monde
voilà,
de jeux
vidéo. C'est 2004. Sachant que, spoiler, aucun des deux n'est élu jeu de l'année.
Quoi?
C'est un autre jeu qui a encore été le jeu de l'année.
Écoute, il faudra aller voilà, écouter l'épisode pour savoir.
Je balance ça comme ça, c'est tout. Voilà, j'en dis pas plus.
ZQSD et le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Merci, mon JK. Fanny, où te retrouve-t-on sur Internet?
Bah, je stream ce soir justement du Among Us, donc sur twitch.tv/redfanny-du-bas. Attention, pas oublier -du-bas. Et sinon, sur tous les réseaux, hein, Twitter, Facebook, Instagram. J'ai un Reddit, j'ai un Discord, enfin j'ai tout. Red Fanny tiré du bas, quasiment partout, je crois.
Red voilà. Fanny, et le lien sera dans les notes de l'émission. Magnifique. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, à peu près partout. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube pour voir cette fameuse vidéo où je vous parle de ce qui fait les qualités des jeux en boîte et les défauts des jeux en dématérialisé et inversement, et ce qui a permis le dématérialisé dans l'industrie des choses. J'ai été surpris, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui m'ont dit « Ah ouais, j'avais jamais pensé que ça, c'était arrivé avec le dématérialisé ». Donc moi, j'ai été surpris que les gens soient surpris ou l'apprennent, mais visiblement, il y a eu des gens qui ont appris des choses dans la vidéo. Donc, c'est Note Patrick, bien sûr, sur YouTube. Et bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, c'est ça qui compte, c'est les sous. C'est ça qui est important, parce que sans sous, c'est difficile de manger. Et moi, j'ai un deuxième enfant qui arrive. Donc, il va falloir payer les couches. Patreon.com/RDVjeux. Vous pouvez... il faudrait que je fasse, en fait... Il y a un truc marketing à faire. Je vais changer les noms des niveaux de soutien, genre couche, petit pot, formule, un peu de lait, tu vois, ce genre de truc.
Il faut mettre, tu sais, les petites icônes qu'il y a avant les pseudos des gens quand ils sont abonnés. Tu peux mettre genre biberon, tétine.
Très, très bonne idée.
Tu peux mettre plein de trucs. Ah, alors, ouais,
Fanny, on va parler après, on va établir une stratégie pour monétiser au maximum la naissance de mon enfant.
Bon. J'en profite pour m'abonner parce que je veux avoir une tétine devant mon...
Eh bien, c'est parfait. Donc, patreon.com/rdvjeux, qu'il y ait des tétines ou pas, c'est le meilleur moyen de soutenir l'émission et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Je remercie tous ceux qui soutiennent le rendez-vous jeu. On se donne rendez-vous, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine, peut-être pas. Ça dépendra du moment auquel le numéro 2 décide d'arriver. Mais dans tous les cas, on se retrouvera très bientôt. Je vous tiendrai au courant sur Twitter et ailleurs. Je vous fais de grosses bises. Et pour ceux qui sont sur Patreon, on se retrouve pour l'after show dans une seconde. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are...
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.